Bonsoir cher ami, voici un autre rendez-vous pour notre cours sur les sacrements. Il fait très beau aujourd'hui à Paris, je vois le soleil et le ciel tout dégagé depuis ma chambre. L'arbre est toujours là, l'arbre dont je vous ai parlé la dernière fois. Je pense bien à vous, ce sont des moments difficiles pour tous, qu'on soit touché ou non par la maladie, qu'on soit au courant de personnes qui nous sont chères et qui souffrent cela. Je vous invite une fois de plus à penser à tous ceux qui sont confrontés de plus près avec ça. Tout d'abord les médecins, les infirmiers, le personnel des hôpitaux. Et puis, bien sûr, à tous ceux qui meurent seuls. Actuellement, nous en parlions déjà la dernière fois et bon, ce qui me concerne, les nouvelles de l'Italie montrent vraiment l'aspect tragique de cette question. Et nous, justement, le dernier thème, vous vous rappelez, tout au début de notre parcours, je vous avais proposé de, comment dire, sortir de la question des sacrements au proprement parler, c'est-à-dire les sept sacrements, dont le dernier que nous avons sondé était celui de l'onction des malades la dernière fois, et de prendre en compte un sacramental, c'est-à-dire un geste qui n'est pas à proprement parler retenu comme un sacrement, mais qui a, je vous disais, une dimension sacramentelle forte et qui voit de plus une évolution assez importante aujourd'hui dans nos pratiques. Paradoxalement, à nouveau, nous en parlons à un moment où il est difficile de célébrer convenablement ou dans toute son amplitude les funérailles aujourd'hui. Je vous toucherai un petit mot quand nous arriverons dans la partie qui est celle qui est prise en compte aujourd'hui. Vous trouverez en ligne trois choses. Tout d'abord, pour ce cours, deux documents. Le plan que vous pouvez suivre, il s'appelle la célébration des obsèques. Vous retrouvez désormais. Vous êtes capable vous-même de rédiger un cours sacramentaire, n'est-ce pas? Parce que vous voyez la méthode que j'emploie depuis toujours, depuis que je suis avec vous, est celle d'abord de mettre dans le contexte historique l'évolution du geste, des sacrements, et puis de vous faire entrer dans la célébration actuelle, et donc en ayant un regard plus attentif sur le rituel qui est employé pour le sacrement, ou en ces cas-là pour les obsèques. Donc, deux documents pour ce cours. Et puis, comme diraient les jeunes aujourd'hui, je vous envoie même un bonus. Justement, l'expérience du confinement m'a permis de faire une petite recherche dans des vidéos qui traitent des sacrements. Et donc, puisque j'imagine vous avez plus de temps à la maison et que vous pouvez davantage peut-être ouvrir votre ordinateur, je vous ai fait une liste des sept sacrements avec des liens qui renvoient à des vidéos généralement produit par KTO. J'ai visionné ces vidéos et je les retiens assez bien faites. Donc, suivant vos intérêts, vous pouvez prolonger ce cours quand le voulez. Vous voyez, c'est vraiment pour le plaisir d'approfondir l'un ou l'autre sacrement à travers ces vidéos. Je commence donc le cours sur les obsèques, la célébration des obsèques. Tout d'abord, je voudrais voir avec vous l'aspect historique, le développement des rites funéraires. Nous avons d'abord une première partie qui, assez rapidement, et c'est de vous montrer quel a été le développement de la tradition liturgique autour des obsèques. Puis une partie qui reprend la manière dont le Concile Vatican II a appréhendé, renouvelé la manière de célébrer les funérailles. Il y en avait bien besoin, vous le verrez. Et puis nous rentrerons dans quelque chose de plus pratique, dans le rituel de la célébration des obsèques. Donc, je commencerai par souligner, donc c'est le numéro 1-2, la tradition liturgique. Et donc, je soulignerai que les rituels chrétiens n'ont pas été créés de toutes pièces. Nous l'avons vu aussi pour d'autres sacrements ou d'autres gestes liturgiques, hein. Ces rituels chrétiens s'enracinent dans les coutumes existantes, tout en les transformant selon une nouvelle approche, et dans le cas qui est le nôtre ce soir, selon une nouvelle approche de la mort. En effet, il faut s'y attendre, l'événement de la mort, de la résurrection du Christ, va être au cœur de la foi chrétienne et n'implique pas directement un nouveau rituel de la mort. Jésus, après sa mort sur la croix, a été enseveli selon les coutumes de l'époque. Et de même, la manière dont les funérailles détiennent le premier martyr, en Actes 8, 2, eh bien, la manière dont les funérailles détiennent sont évoquées dans les Actes laisse à penser que le rituel habituel était observé. Les Actes disent, à ce verset 2, des hommes purent l'ensevelir et firent sur lui une grande lamentation. Ce rituel des funérailles en Palestine est assez simple. Là aussi, c'est une constante de ce que nous avons vu. Généralement, les rites sont simples au début et se compliquent vers le premier millénaire pour retrouver une simplicité plus grande après le Concile Vatican II. Eh bien, pour le rituel des funérailles en Palestine, le rite est assez simple. Le corps est enseveli le jour même du décès ou le lendemain, inhumé à même la terre, ou bien, pour les familles aisées, enveloppé dans un linceul et déposé dans une chambre funéraire creusée dans le roc. Les rites de deuil ressemblent aux rites de pénitence. Vous voyez, ils firent sur lui une grande lamentation, disent les Actes au sujet d'Étienne. Et donc, ces rites de deuil comportent généralement le fait de se déchirer les vêtements, répandre de la cendre. Et ils manifestent une sorte de participation à la mort. Il y a une volonté de s'anéantir de manière symbolique avec le défunt, vous voyez. Et donc, les lamentations sont un rite essentiel. Elles vont perdurer aujourd'hui encore en Orient. Et même, je dirais, on peut en voir, je crois, encore aujourd'hui dans le sud de l'Italie. Hein. Cris de douleur, appel du défunt pour le rappeler parmi les vivants, complainte. Voilà, tous ces aspects sont ritualisés, accomplis par des professionnels. Le monde gréco-romain connaissait aussi de telles lamentations. D'une manière générale, on peut dire que les premières générations chrétiennes suivent sans problème les coutumes locales, aussi bien dans le monde grec que dans le monde romain. D'autant plus que les funérailles sont des cérémonies familiales plus que religieuses. En Orient comme en Occident, les chrétiens suivent les usages de leur temps en y apportant quelques modifications qui sont inspirées par la foi. L'époque patristique, c'est-à-dire l'époque qui peut être prise entre le 3e et le 6e siècle. En cette période, les chrétiens n'accordent pas aux funérailles la même importance décisive que les païens. La résurrection des morts les invite à proclamer que leur joie est plus forte que leur peine. Et l'espérance de la résurrection relativise aussi l'obligation des funérailles rituelles, comme en témoignent tout particulièrement les martyrs. Ainsi, Ignace d'Antioche, se soucie peu de son enterrement. Il est plutôt préoccupé de donner sa vie pour Dieu. Et de même, les chrétiens de Lyon, les premiers martyrs en Gaule, en France, malgré leur regret de ne pouvoir donner de sépulture à leurs martyrs, jugent dérisoire la volonté des persécuteurs de ne laisser aucune relique en jetant leurs cendres dans le Rhône. Et dans la même ligne, alors qu'on attachait beaucoup d'importance au fait d'être réuni à ses pères ou inhumé dans la terre, Augustin rapporte l'indifférence de sa mère, Monique, au moment de sa mort, quant au lieu de son enterrement. Je vous cite là ce que Augustin rapporte d'un propos de sa mère dans les Confessions qu'Augustin a écrit. Voilà, il dit ceci, je cite. Monique dit « Ensevelissez mon corps où bon vous semblera, et ne vous en inquiétez point. Je vous demande seulement de vous souvenir de moi devant l'autel du Seigneur en quelque endroit que vous soyez. » Voyez, non préoccupation, non souci d'où ira le corps du défunt, mais importance d'en faire mémoire par la prière, probablement la célébration de l'Eucharistie, devant l'autel du Seigneur. Quels sont les rites des funérailles à cette époque? Tout d'abord, on sait que le défunt est revêtu d'un vêtement blanc qui rappelle son baptême. Les lamentations coutumières sont remplacées par le chant des psaumes. La coutume romaine de placer une pièce de monnaie dans la bouche du défunt est supprimée. Mais généralement, le chrétien reçoit avant de mourir le viatique, c'est-à-dire le pain de vie, qui le fait déjà communier à la vie éternelle. Vous comprenez bien, viatique vient de là, sacrement ou pain pour la vie, hein, pour la vie. On offre l'Eucharistie pour les défunts. Le fait d'offrir l'Eucharistie pour les défunts est une pratique attestée dès le second siècle. On emploie l'encensement pour marquer l'encensement du défunt, pour marquer le caractère triomphal des funérailles chrétiennes, encens comme étant le symbole, hein, à cette époque, de l'honneur que l'on donne aux grands de ce monde. Hein. Et puis, à Rome et dans les grandes cités occidentales, il y a la pratique de l'incinération qui était accomplie pour des raisons d'hygiène et de prix du terrain. Mais généralement, les chrétiens, justement, vont préférer systématiquement l'inhumation qui va être jugée plus conforme avec la foi en la résurrection des corps. Sur le lieu de l'enterrement, toujours dans cette époque, entre le IIIe et le VIe siècle, nous savons qu'à Rome, la loi interdisait d'enterrer les morts dans la cité des vivants, pour des raisons d'hygiène, de sécurité. Et donc, les tombes et les cimetières se trouvaient en dehors des murs, le long des routes. Et les chrétiens vont suivre cet usage et seront d'abord enterrés dans des tombes très simples, au milieu des tombes païennes. J'ouvre une parenthèse, cela est tout à fait visible, je dirais, aujourd'hui, en dessous de la basilique Saint-Pierre, où on fait des fouilles et on retrouve un cimetière de la ville, de Rome, mais au milieu des tombes païennes, il y a aussi des tombes parfois chrétiennes. Eh bien, bientôt va se développer le désir d'être enterré auprès des tombes des martyrs, dont la mort est le plus haut témoignage de l'espérance de la résurrection. Et donc, On enterre les défunts autour du lieu où le martyr a été enseveli. Et on construit alors une chapelle ou une église sur leur tombe en dehors de la ville, autour justement desquelles vont être enterrés les fidèles. L'autre étape est celle des rituels du Moyen Âge, entre le 7e et le 15e siècle. Nous allons voir une évolution assez, disons, étonnante. Voilà. Quel est le rituel de l'Église de Rome à la fin du 7e siècle? Le meilleur témoin que nous ayons de la pratique de l'Église de Rome à la fin du 7e siècle est un document qui décrit, il s'appelle, pour vos connaissances, Ordo Romanus. Voilà donc le déroulement du rite selon ce que l'on fait à Rome. Eh bien, ce document décrit le rituel des funérailles à Rome vers le 7e siècle. Mais vous savez, comme toujours, les documents qui vont être écrits sont le résultat de pratiques qui étaient faites déjà avant le 7e siècle. Quel est le déroulement du rituel des funérailles? Tout d'abord, il y a une préparation à l'approche de la mort avec la communion à l'Eucharistie et une lecture du récit de la Passion dans les évangiles jusqu'à ce que l'âme sorte du corps. Vous entendez bien, Eucharistie et récit de la Passion. Puis, au moment même de la mort, on chante une antienne très ancienne qui commence ainsi: Venez, Saint de Dieu, accourez, ange du Seigneur, accueillez l'âme de ce défunt. On chante le psaume 113, qui est un psaume de Pâques, quand Israël sortit d'Égypte, commence ainsi ce psaume. Et puis, après ces premiers rites, on a les rites de la toilette funéraire, suite auquel le corps est placé sur un brancard, le visage découvert. Il va y avoir donc lieu une procession de la maison vers l'église, qui est introduite par le chant du psaume 96. Il va y avoir lieu à l'église un office composé de psaumes, d'antiennes, de lectures, mais il n'y a pas de messe. Et puis, il y a une seconde procession de l'église au lieu de sépulture, et cette procession est aussi accompagnée de psaumes, d'antiennes, voilà. Et le rite se termine par le chant du psaume 117, qui est le psaume de résurrection par excellence. Vous pourrez à la limite aller le regarder. Hein. Donc on peut dire que l'aspect le plus significatif de ce rituel est son caractère pascal très marqué. Cela se manifeste en particulier par le choix des psaumes. Je les ai nommés, le psaume 113, le psaume 117. Généralement, ces psaumes, c'est assez intéressant, sont priés devant le défunt. Et donc, le défunt vit la Pâque du Christ, il est identifié au Christ comme il l'a été par son baptême. D'où le fait de revêtir le corps d'un linge, d'un habit blanc. Une autre remarque, c'est que ce rituel du 7e siècle, comment dire, comporte un accompagnement en continu. On accompagne le défunt, disons, la personne qui doit mourir, de l'agonie à l'inhumation. Et donc, cela inclut l'événement même de la mort dans son déroulement. Il témoigne ainsi d'une continuité qui présente la mort comme un passage qui vient renforcer le caractère pascal. Vous le voyez bien, l'acte de marche est ici essentiel, hein. On va de la maison à l'église, de l'église au lieu de sépulture, hein. Comme s'il y avait une sorte de cortège, d'itinéraire, hein. Voilà, comme si on voulait répéter la vie du défunt, comme si la vie du défunt continuait jusqu'au cimetière et jusqu'à son entrée au ciel. Voilà. Autre caractéristique, la composition des antiennes, des hymnes que l'on chante, évoque la résurrection, la fête en compagnie des anges, le cortège triomphal, et donc donne à cet ensemble de rituels une tonalité joyeuse, confiante. Voilà. Quels sont par contre les usages liturgiques qui apparaissent toujours dans cette époque, hein, 7e, 15e siècle, mais plutôt au 8e siècle? Là, ce que je viens de décrire en dernier, c'était les usages romains au 7e siècle. Vous savez, c'est l'époque où en Europe, on va avoir l'interaction, la rencontre entre les rites venant de Rome, hein, et avec les rites qui viennent des usages germano-francs, c'est des populations du nord de l'Europe qui sont en train de descendre ou qui déjà ont pris possession des régions de l'Europe à cette époque-là. Eh bien, à la fin du 8e siècle, sous l'impulsion de Charlemagne, qui s'efforce d'unifier son vaste empire par tous les moyens, les livres liturgiques de Rome vont être introduits, imposés dans tout le monde franco-germanique, mais ils vont être modifiés pour répondre à la mentalité de l'époque de ces régions éloignées de Rome. Ainsi apparaissent de nouveaux livres liturgiques. Et ces livres liturgiques nous font connaître de plus près les rites de cette époque et l'évolution du rite des funérailles et des obsèques. Et on peut constater, à partir de ces autres livres liturgiques du 8e siècle, un climat plus sombre et pessimiste au sujet des obsèques, des funérailles. En effet, les diverses oraisons d'origine germano-franque témoignent d'une inflexion dans l'approche de la mort avec une tonalité plus sombre. À l'atmosphère confiante du rituel romain s'ajoute maintenant une inquiétude pour les défunts, si bien que le passage dans l'au-delà apparaît comme un voyage périlleux. On a comme une sorte d'ombre qui plane sur l'au-delà de la mort. Il y a comme une incertitude qui va peser sur le sort de l'âme. Le pécheur va être moins assuré de son salut. Et donc, ces rituels commencent après la mort et vont rompre la continuité du rituel romain qui, je vous le rappelle, hein, lui tenait compte même des derniers moments de la personne qui allait mourir. Et donc, ce qui est souligné, ce sont bien les risques de la condition humaine que la peur du jugement et des peines et de l'au-delà comporte. Genre, le risque d'une condition humaine dans sa confrontation avec le jugement et les peines de l'au-delà. Climat plus sombre et pessimiste, mais aussi une dimension plus marquée de l'intercession. En effet, la liturgie des funérailles prend une dimension nouvelle d'intercession. L'Église commence à offrir ses prières pour les défunts. La miséricorde de Dieu reste source d'espérance. Et les oraisons font ainsi alterner confiance paisible et demande pressante. Mais à travers les dangers de l'au-delà, dans la continuité du rituel romain ancien, c'est bien vers un lieu de lumière et de repos, dans la compagnie des anges et des saints, que l'Église veut accompagner le défunt. Mais en vérité, le défunt n'est plus, en ce moment, dans ce rituel, identifié au Christ dans sa Pâque, mais il est placé comme s'il était seul en face de Dieu, dont il espère la miséricorde à cause du Christ. Et donc cette dimension d'intercession s'exprime par l'apparition de plusieurs formulaires de prière ou de messe pour les défunts. L'autre passage, si je peux dire, hein, toujours dans cette période 7e, 15e siècle, c'est celui qui va advenir au 10e siècle. En effet, donc d'abord nous avons vu le 7e siècle à Rome, puis la fin du 8e siècle dans les pays franco-germaniques, et maintenant au 10e siècle à Rome va être introduit un autre rituel qui est le fruit de la synthèse réalisée par la réforme carolingienne. Et donc les inflexions que nous avons constatées lorsque le rituel romain a rencontré les usages germano-francs vont être encore plus institutionnalisées pour l'ensemble de l'Église. Et donc nous allons avoir d'autres caractéristiques qui rendent plus pessimiste cette expérience de la mort et des funérailles et des obsèques. Tout d'abord, on voit apparaître la peur du jugement. À cette époque se développe un sentiment totalement absent des prières et des chants, des rituels anciens, ce que nous avons vu du 7e siècle par exemple. Et donc, à l'attente de la parousie, de la rencontre avec Dieu, va se substituer la crainte du jugement. Et le thème du jugement dernier va prendre une importance considérable dans l'iconographie comme aussi dans la liturgie. Il y a comme un développement progressif de la conscience individuelle qui va se retrouver en face de la crainte du jugement particulier. Autre caractéristique, de plus en plus va prendre une grande importance, la messe. En effet, dans la pratique de l'Église ancienne, la messe, on l'avait vu tout à l'heure, tout au début de ce cours, de ce parcours historique, la messe, au moment de entre le 3e et le 6e siècle, semblait ne pas avoir été célébrée de façon régulière aux funérailles. Cependant, à partir du 10e siècle, sous l'influence des milieux monastiques, je vous dis toujours, méfiez-vous des moines, hein? Eh bien, sous l'influence des milieux monastiques, nous avons vu aussi que ces milieux avaient influencé la pratique de la pénitence, vous vous rappelez? Eh bien, la messe, à partir du Xe siècle, va devenir peu à peu l'élément principal de la liturgie. Le sacrifice du salut étant l'offrande éminente pour invoquer la miséricorde de Dieu. Cela fait que de la station à l'église, le fait d'arrêter le cercueil à l'église, va devenir, cette station à l'église, cet arrêt à l'église, va devenir le cœur du rituel, puisque cette messe va être suivie de l'office psalmique traditionnel. Et donc, les messes pour les défunts vont effectivement deviennent un acte qui vaut par lui-même comme offrande pour le salut du défunt. C'est cette époque, c'est à cette époque que, naturellement, on multiplie les messes pour les défunts. Vous vous rappelez que j'avais remarqué que c'est cette époque aussi qu'on va construire les chapelles latérales pour y placer des autels. On va multiplier les messes. Un autel ne suffit plus. Il faut des messes, il faut des autels pour plusieurs messes à la fois. Messes, naturellement, moyennant de l'argent, comme on avait vu pour la pénitence. Hein, voilà. L'autre aspect de ce Xe siècle est le développement de ce qu'on appelle l'absoute. En quoi consiste? Face au jugement, l'absoute, c'est-à-dire l'oraison qui demande à Dieu d'absoudre, de délier les défunts de leurs péchés, prend une importance de plus en plus grande, en particulier au XIIIe siècle. Cette prière est liée au pouvoir sacerdotal d'absoudre les péchés. Eh bien, nous retrouvons, comme on l'a trouvé pour d'autres sacrements, c'est toujours à cette époque, nous sommes là désormais au XIIIe, XIVe siècle, on a là une cléricalisation des funérailles, hein, la distinction entre clerc et laïc va s'accentuer, et donc la gestion du sacré va revenir au clerc, et les actes religieux vont être accomplis ou présidés par un prêtre. Voilà, la généralisation de la messe, l'importance de l'absoute, voit le renfort, si je peux dire, de l'intervention sacerdotale. Autre évolution, le lieu de sépulture. Les cimetières, en dehors de la cité en usage dans l'Antiquité, font place, à partir du Xe siècle, à de nouveaux lieux de sépulture. D'une part, les villes s'étendent au-delà de leurs murs et les faubourgs tendent à recouvrir les terrains d'inhumation. D'autre part, on réserve autour des nouvelles églises qui se construisent à l'époque, eh bien, on réserve un espace sacré, une terre d'église, un champ des morts qui devient le lieu normal de la sépulture. Il s'agit en ces cas-là d'être inhumé en terre chrétienne, au plus près de l'Église, voire à l'intérieur même de l'Église, si on a plus de privilèges. Et on espère de bénéficier ainsi des prières et des messes qui seront célébrées. Avant-dernière, je dirais, étape, parce que si nous prenons aussi l'étape du Concile, qui est extrêmement importante, mais l'étape juste avant le Concile Vatican II, nous avons le Concile de Trente. Désormais, vous avez appris l'importance de ce Concile, qui doit être tenu aussi comme un Concile qui a voulu réformer la liturgie des sacrements. Eh bien, le rituel issu de ce concile, le rituel tridentin, au XVIe siècle, notamment en 1614, le rituel promulgué par le pape Paul V, va traiter de l'administration des sacrements et des autres fonctions ecclésiastiques. Et sa promulgation va devenir un événement important. Eh bien, ce rituel va avoir une dimension très pastorale. Nous sommes là donc au XVIIe siècle, 1614, comme je vous disais, et ce rituel va perdurer jusqu'au XXe siècle. Donc je suis là numéro 1, 2, 3, le rituel tridentin, 16e et 20e siècle. Bien, caractéristique propre de ce rituel, dimension pastorale marquée. Et donc, En quoi consiste cette dimension pastorale? On attire l'attention sur la responsabilité du curé de la paroisse à l'égard des mourants. Et donc, le curé doit considérer la pastorale des malades comme, non comme le dernier de ses soucis, mais au contraire, demander à ses paroissiens de l'avertir quand un fidèle se trouve en danger. Et donc, le rituel précise que la célébration des funérailles, hormis la messe, peut être même présidée par un diacre, déjà à cette époque-là. Et à travers ce rituel, on va en mettre en lieu, on va mettre en œuvre l'accompagnement des mourants, la célébration des funérailles, l'inhumation au cimetière, qui vont devenir comme des actes principaux du ministère des curés. Donc ce rituel va prévoir une préparation à la mort. Le rituel met l'accent sur la préparation à la mort. Il revient au prêtre de donner l'absolution, l'extrême-onction, je vous renvoie au cours précédent, et de faire là ce qu'on appelle la recommandation de l'âme avec litanie des saints, oraison, lecture de la Passion, psaume, oraison. Mais le prêtre a la faculté de choisir parmi toutes les prières proposées et d'alléger considérablement le rituel. Quel est le déroulement des funérailles selon ce rituel issu du Concile de Trente? Après la mort commence le rituel des funérailles. Il consiste en une procession de la maison à l'église et un ensemble de rites sont accomplis à l'église. Enfin, il y aura une procession jusqu'à la tombe. Lors de la procession vers l'église, on chante le psaume 50, d'autres psaumes de l'office des morts, et la procession s'achève à l'église par une antienne qu'on a déjà connue au 7e siècle. Et à l'église, le rituel conserve l'office des défunts, avec chant de psaume, la lecture du livre de Job. Et donc, on va effectivement accomplir aussi dans l'église la messe, et parfois on peut célébrer l'après-midi les vêpres, toujours à l'église. Nous passons maintenant au numéro 1-3 du plan que je vous ai donné, au Concile Vatican II. Nous pouvons constater que, effectivement, la constitution sur la liturgie, en son numéro 81, va demander que le rite des funérailles soit révisé. Le Concile explicite notamment l'une de ces raisons qui est de nature doctrinale et liturgique, lorsqu'il va statuer que, je cite le numéro 81 de la Constitution sur la liturgie, le rite des funérailles devra exprimer de façon plus manifeste le caractère pascal de la mort chrétienne et devra répondre mieux aux situations et aux traditions de chaque région. Donc vous voyez, vous entendez, c'est une motivation doctrinale, théologique. Il faut le réviser pour lui donner un caractère pascal plus marqué. Ça veut dire qu'il ne l'avait pas, hein? Et donc, quels sont les choix opérés par le Concile Vatican II? Eh bien, à l'origine de la décision visant à réformer la liturgie des funérailles, se trouve la conscience que le rituel hérité du Concile de Trente n'exprimait pas de façon adéquate la richesse doctrinale contenue dans la vision chrétienne de la mort. Et donc, on va retrouver cet aspect-là, d'où le nouveau rituel, je vous les ai marqués là dans le plan. Tout d'abord, le rituel en langue latine en 1969, et puis le rituel en langue française, l'adaptation en langue française en 1972. Je rentre d'emblée, de plein pied, dans le rituel qui a pour titre, dans son adaptation française, la célébration des obsèques, nouveau rituel des funérailles. Eh bien, quelles sont les caractéristiques principales de ce rituel? Quand on compare globalement le rituel de 1614 et celui du Concile Vatican II, on peut constater que il y a effectivement dans le rituel actuel une plus grande richesse thématique de textes des oraisons, de ce qu'on appelle l'eucologie, tout ce qui concerne les prières. Nous y retrouvons aussi des aspects traditionnels dans lesquels prédominent le langage et les perspectives bibliques, la redécouverte de la Bible, du langage de la Bible. Et on va essayer de ne pas donner une importance excessive au thème du péché, de l'intercession, du pardon. Et donc, on va donner une répartition plus équilibrée de textes et on va insérer d'autres thèmes comme ceux de l'espérance, de la résurrection, de la rencontre avec Dieu. On souligne aussi à plusieurs reprises que le climat communautaire doit caractériser toute la célébration. C'est-à-dire que la liturgie des funérailles doit être tout entière une profession de foi en la Pâque du Seigneur et un moment de communion intense avec celui qui n'est plus et avec ceux qui pleurent sa disparition. À un autre niveau, la comparaison avec le rituel tridentin met en lumière une caractéristique du nouveau rituel, celui issu du Concile Vatican II. En effet, si nous considérons la structure de la célébration des funérailles, nous voyons que dans la réforme opérée par Vatican II, il y a un intéressant processus de restauration des éléments de la tradition ancienne. En particulier, on cherche à rendre son sens, dans le contexte du rituel, au déroulement des moments ou des étapes de la célébration de la mort. Et par conséquent, on va mettre en évidence sa valeur humaine, sa valeur religieuse. Par exemple, on le verra tout à l'heure de plus près, on va proposer une veillée de prière, une prière faite au moment où l'on voit pour la dernière fois le visage du défunt et une prière pour le dernier adieu. Et donc, cette tendance semble indiquer qu'on progresse vers une compréhension plus cohérente, plus approfondie du climat très particulier de communion et de fraternité qui marque la célébration de la mort chez les chrétiens. En plus, dans le nouveau rituel issu du Concile Vatican II, on va élaborer un lectionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est le lectionnaire? C'est le livre qui contient les lectures que l'on fait au cours de la liturgie. Eh bien, on va élaborer un lectionnaire riche, très riche, ce qui va marquer, juste ce qui marque généralement les rituels du Concile Vatican II. Autre aspect, selon une très ancienne tradition, les psaumes vont être abondamment utilisés. Et en outre, les prières vont être plus riches et pleines d'enseignements. Regardons maintenant de plus près la célébration des obsèques. D'abord, quelle est la structure, le déroulement de cette célébration? Quel est le langage rituel pour apercevoir deux dimensions de ce rituel, la dimension pascale et la dimension ecclésiale? Donc, tout d'abord, la structure et le déroulement de la célébration des obsèques. Divers moments de célébration sont envisagés dans le rituel. Ce sont des moments qui apparaissent, je cite le rituel, comme des étapes de la prière de l'Église entourant l'un de ses membres défunts, mais aussi s'adressant à ceux qui sont dans la peine. Donc, ces éléments sont la prière avec les proches, la veillée à la maison du défunt ou à la maison funéraire, la fermeture du cercueil, le départ de la maison ou de l'hôpital, le rassemblement des proches et de la communauté chrétienne pour une liturgie de la parole ou la célébration de l'Eucharistie et le dernier adieu au défunt, et enfin la déposition dans la tombe ou la crémation. Ces moments-là que je viens d'indiquer sont répartis en trois lieux de rassemblement. On demande aux personnes, aux proches, de se rassembler dans des lieux précis. Premier lieu, la maison, ou le lieu où repose le défunt avant son inhumation. Deuxième lieu, l'église, où les proches du défunt et la communauté chrétienne sont convoqués. Et troisième lieu, le cimetière où s'accomplit la sépulture. Le rituel actuel prévoit que les funérailles aient lieu suivant trois types distincts de célébrations, qui déclinent ces trois lieux de manière différente. Le premier type de célébration prévoit donc trois lieux de rassemblement, au domicile du défunt, à l'église, au lieu de sépulture. Le deuxième type de célébration ne comprend que deux rassemblements, à la chapelle du cimetière et au lieu de la sépulture. Le troisième type de célébration ne comporte qu'un seul rassemblement au domicile du défunt. Ces divers types de célébrations comportent dans leur déroulement des éléments rituels communs à la plupart des traditions liturgiques chrétiennes. Je les indique: l'accueil, le regroupement de la communauté, l'écoute et la célébration de la parole de Dieu, la célébration de l'Eucharistie, le rite de la dernière recommandation et du dernier adieu. Et donc, en accueillant les proches du défunt et en les saluant, eh bien, celui qui dirige la prière liturgique apparaît comme, le rituel le dit, le ministre de la consolation. C'est ainsi que toujours, partout, suivant les divers lieux de rassemblement, l'officiant qui conduit la célébration, je ouvre une parenthèse, de plus en plus sont des laïcs qui officient ces moments, eh bien l'officiant qui conduit la célébration adresse à ceux qui se sont réunis auprès du défunt une parole qui apporte, je cite à nouveau, la consolation de la foi. La parole de Dieu est convoquée à chaque étape de la prière de l'Église pour les défunts. Elle est prévue lors des prières brèves, lors de la veillée pour le défunt, de la déposition du corps à l'église, de l'incinération. Un autre élément important, c'est la célébration de l'Eucharistie prévue par le rituel des funérailles lorsqu'il y a station à l'église. Et donc l'Eucharistie, quand elle est célébrée, manifeste pleinement, elle aussi, la signification pascale de la mort chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elle atteste que le passage du défunt est lié intimement au mystère de la Pâque du Christ. Ainsi, la célébration des obsèques est foncièrement reliée à l'Eucharistie, même si celle-ci ne peut pas avoir lieu pour des motifs pastoraux. Quel est le langage rituel symbolique qui parle généralement? Tout d'abord, on peut souligner que le corps du défunt, dans ce passage qui le conduit vers Dieu, est au centre de la célébration des funérailles. C'est bien autour de lui que se rassemblent les proches, la communauté des chrétiens. Ce rassemblement, nous l'avons vu, se fait à partir des lieux qui, pour ainsi dire, retracent le parcours de la vie du défunt. Le domicile, l'église, le cimetière, lieu de la demeure finale. Ainsi, de lieu en lieu, jalonnés et reliés entre eux par des processions, tous sont invités par des déplacements à appréhender et à ressentir la signification de la vie et de la mort. Face au mystère de la mort, c'est bien seulement le langage rituel qui peut permettre d'entrer dans cette compréhension. Vous le savez, quand il y a quelqu'un de nos proches, mais je dirais même dans ces moments qui sont les nôtres, la mort devient extrêmement incompréhensible. Elle n'a pas de sens, comme on dit, et les paroles nous manquent. Eh bien, le rituel semble combler cette manque de paroles par des gestes rituels, un langage rituel fort. Ainsi, au cours de l'action liturgique, les signes, les gestes accomplis auprès du cercueil ont pour but de manifester les honneurs rendus au défunt au travers de sa dépouille. On va disposer les lieux et les objets liturgiques. On va mettre en valeur la lumière du cierge pascal. On va décorer le cercueil par des fleurs. Il va y avoir des gestes forts comme l'aspersion de l'eau bénite qui rappelle le baptême, les commencements du défunt. On encense le cercueil, signe d'honneur. On chante, on joue de la musique d'orgue. Tout concourt à ces honneurs du défunt. Le silence aussi, de manière privilégiée, fait partie de ce langage rituel et dans le rituel, il remplit la fonction primordiale de scander et de rythmer les moments de recueillement. Cela nous fait dire que, je terminerai par ça, que le rituel tout entier comporte une dimension pascale forte et une dimension ecclésiale aussi. La dimension primordiale de ce rituel que je viens de présenter est sans nul doute une dimension pascale. C'est ce qu'expriment sans ambiguïté les notes doctrinales et pastorales du rituel romain. Je cite un de ces passages. C'est le mystère pascal du Christ que l'Église célèbre avec foi dans les funérailles de ses enfants. Pour que, étant devenus par le baptême membres du Christ mort et ressuscité, ils passent avec lui à la vie en traversant la mort. Ils doivent être purifiés dans leur âme pour rejoindre au ciel les saints et les élus, tandis que dans leur corps, ils attendent l'avènement bienheureux du Christ et la résurrection des morts. Et puis, dimension ecclésiale, nous l'avons vu, hein. Et c'est ça le drame de ces jours qui sont les nôtres. Le chrétien qui meurt n'est pas seul. Et le rituel montre qu'il ne faut pas reléguer la mort au seul rang d'un événement strictement personnel, mais qu'il convient de lui réserver une dimension ecclésiale au sein de la communauté des croyants. Et donc, toute la communauté est convoqué pour se rassembler autour du défunt, tout est mis en œuvre à tous les niveaux de la célébration pour manifester cette dimension communautaire. Le rituel prévoit la participation de toute la communauté, parents, amis, ministres. Tous sont impliqués dans la préparation des obsèques. Naturellement, ce que je viens de dire prend tout son sens justement dans les jours qui sont les nôtres, là où nous assistons à une mort en solitaire de ceux qui meurent dans les hôpitaux ces jours-ci. Je vous laisse regarder, avec, comme pour prolonger le cours, un extrait d'un livre liturgique qui s'appelle Dans l'espérance chrétienne, célébration pour les défunts. Ce rituel, généralement, est confié et destiné aux laïcs qui peuvent, comment on peut dire ça, officier l'une ou l'autre partie des funérailles. Et vous verrez, il dit de manière plus approfondie, hein, naturellement, ce que je viens de dire, ce que je vais essayer de mettre en valeur. Vous retrouvez à la troisième page, hein, la structure du rituel, la prière de l'Église pour les défunts. Vous voyez, il y a les trois lieux, hein, le lieu où repose le défunt, la célébration des obsèques, le lieu de la sépulture. Et là, vous avez les notes de mise en œuvre qui reprend les notes doctrinales et pastorales du rituel des défunts. Nous venons de terminer donc notre parcours sur les sacrements. Je vous faisais remarquer tout au début, hein, que la vie sacramentelle est tendue entre la naissance et la mort, hein, que les gestes, les sacrements, ce sont des gestes de miséricorde, de bonté de la part de Dieu pour nous, hein, qui nous font rester debout quand nous sommes petits, qui nous procurent la joie quand nous nous marions, quand nous sommes appelés à être prêtres ou diacres ou évêques, qui nous accompagnent dans les moments les plus difficiles, quand le corps se rend fragile ou quand le corps est appelé à être restitué à la terre. Eh bien, je voudrais bien que ce cours vous laisse cette perception que nous ne sommes pas seuls dans cette vie sur la terre, mais que justement la grâce de Dieu veille sur nous et nous accompagne toujours par ses gestes de bonté et d'amour. Je vous salue, mais peut-être que demain, l'un ou l'autre voudra se connecter, ou pourra se connecter. Sinon, en principe, vous savez, il y a une date, fin juin, en espérant que tout passe, que ce moment difficile passe, pour nous rencontrer aussi, pour une soirée dans laquelle nous échangerons dans la joie le parcours de cette année. Je vous remercie pour votre présence en cours. C'est toujours touchant pour moi de venir au CIF, de rencontrer des laïcs, hommes et femmes comme vous, qui me donnent encore plus envie d'être chrétien. Je vous en remercie. Prenez soin de vous et voilà, prions les uns pour les autres. À bientôt.